RCF. Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense. Prenons le temps d'oublier cette terrible pandémie paralysante de la Covid-19 pour revenir à notre histoire. Les émissions à venir seront douloureuses et lourdes de conséquences pour notre 20e siècle. 1871-2021, nous commémorons cette guerre terrible, inconnue pour nombre d'entre nous, celle que nous appelons la guerre de 1870. Pour nous aider à mieux comprendre, j'ai invité M. Claude Vigoureux, directeur de l'ONAC, victime de guerre du département du Cher, historien par passion, pour et surtout fin connaisseur de cette période difficile, parfois même très souvent oubliée, des manuels d'histoire. Bonjour, Monsieur Vigoureux.
Bonjour.
Enchanté de vous revoir.
Moi de même.
Notre première émission sera consacrée à l'origine de cette guerre, avec une première interrogation. Un second empire brillant, une croissance économique formidable, à faire pâlir d'envie notre situation actuelle. Comment sommes-nous arrivés à cette tragédie de 1870-1871? Pouvez-vous rappeler la situation diplomatique de la France en 1870?
Alors, peut-être est-il important de dire pour les auditeurs d'aujourd'hui pourquoi nous pouvons commémorer cette guerre. C'est que effectivement, au point de vue calendaire, nous sommes dans le 150e anniversaire. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est le dernier conflit binational en Europe. Ensuite, il y a eu des guerres mondiales, mais la dernière fois que deux nations se sont opposées les armes à la main, c'était entre la France et la Prusse en 1870. C'est un conflit qui a des causes multiples et dont les conséquences furent la naissance de l'Empire allemand et puis chez les Français le désir d'une revanche. On sait que ce sera la guerre de 14. Alors, la guerre de 70, elle survient dans un paysage national, français, particulier. Vous avez parlé du Second Empire. Oui. Effectivement, c'est une période marquée par l'apogée de la France au point de vue économique et diplomatique. En 1870, Napoléon III est un monarque parlementaire.
Oui.
Les institutions sont très proches des nôtres actuelles. C'est important parce que l'Empire s'étant libéralisé, il n'a plus seul l'initiative des décisions, notamment de droit de déclarer la guerre. Pourquoi on en arrive là? D'abord, oui, peut-être un mot sur les relations entre les Français et les Prussiens au XIXe siècle.
Très important.
Au XVIIIe siècle, la Prusse s'est révélée par la victoire des armées prussiennes, de Frédéric II de Prusse, oui, sur la France, sur les armées françaises et autrichiennes à Rosbach en 1757. Ça a marqué le XVIIIe. Au XIXe, retour de bâton. Le nouvel homme fort, le nouveau despote éclairé d'Europe, c'est Napoléon Ier, empereur des Français, et qui va écraser les Prussiens à Iéna, oui, en 1806. Et ça va laisser une marque durable dans les mémoires allemandes. Pour autant, au XIXe siècle, en tout cas jusque dans les années 1860, on va dire qu'en France, la Prusse est à la mode. Il y a une, on va dire, la culture allemande, en tout cas au sens large, avec Goethe, avec Schiller, oui, avec Beethoven, si vous voulez, est particulièrement prisé. On a aussi des alliances diplomatiques. N'oublions pas qu'une Beauharnais, Stéphanie, cousine de Napoléon, épouse le grand-duc de Bade, que le propre frère de Napoléon Ier épouse une Wurtemberg, que Eugène de Beauharnais lui-même va épouser une princesse de Bavière, et puis sous Louis-Philippe, l'héritier de la couronne va épouser la princesse Hélène de Mecklembourg. Donc en gros, une entente plutôt cordiale,
oui,
jusque dans les années 1860, et puis une sympathie pour la culture allemande. Mais oui, tout change dans les années 1860, de personnalités émergentes, le nouveau roi de Prusse, Guillaume Ier, et surtout son chancelier, le comte de Bismarck.
Redoutable Otto von Bismarck.
Et Otto von Bismarck, qui avant d'être chancelier de Prusse, va être ambassadeur de Prusse à Paris, à la cour de Napoléon III. Et donc il va avoir tout loisir de connaître les ressorts de la personnalité de l'empereur des Français.
C'est très intéressant ça.
Donc il dira d'ailleurs un jour avec mépris que l'empereur est une grande incapacité méconnue. En fait, il va se rendre compte que Napoléon III est un sentimental qui est épris de ce qu'on appelle le principe des nationalités,
oui,
qui est hérité de la Révolution, oui, selon lequel tout peuple a le droit d'être autonome dans ses frontières naturelles.
Oui.
C'est pour cette raison que Napoléon III a engagé, aux côtés du Piémont-Sardaigne, la guerre d'Italie.
Oui.
Et donc, ce que Bismarck va faire quand il est à Paris, il va persuader l'empereur des Français que la suite du grand projet impérial pour l'Europe, c'est d'aider la Prusse à réaliser son unité.
Son unité.
En rappelant que Napoléon Ier avait commencé en créant la Confédération
germanique.
Voilà. Et donc, du coup, pour achever le projet impérial, quoi de mieux que d'aider la Prusse à devenir unie. Donc ça, si vous voulez, c'est la toile de fond.
D'accord. Toile de fond intéressante. Hein.
Et ce qui va se passer, c'est que juste tant que la Prusse, on va dire, reste dans les clous, c'est-à-dire dans le cadre des traités diplomatiques qui sont, rappelons-le, hérités du traité de Vienne de 1815,
tout à fait,
qui a figé l'Europe pendant une cinquantaine d'années, tout comme le traité de Versailles figera l'Europe durant une vingtaine d'années.
Voyez. Voilà.
Bon, Napoléon III voulait sortir des traités de Vienne qui avaient cassé la prééminence de la France. Mais alors la Prusse, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle commence une politique d'agrandissement et d'unification par le fer, par les armes, en s'attaquant d'abord au Danemark.
Oui.
C'est la fameuse guerre des duchés.
Guerre des duchés, oui.
Avec donc la neutralité française,
oui,
et la complicité de l'Autriche. C'est la Prusse et l'Autriche qui font la guerre au Danemark et qui s'emparent du Schleswig et du Holstein. Mais deux ans plus tard, la Prusse écrase l'Autriche, qui était pourtant son allié en 1864, à Sadova.
Sadova.
En obtenant la neutralité de la France,
oui,
et en promettant à Napoléon III, des compensations territoriales, à l'instar de ce que Victor Emmanuel avait accordé à l'empereur après la guerre d'Italie. N'oublions pas que nous sommes redevables à Napoléon III de Nice,
oui,
et de la Savoie. Et bien de la même façon, il y avait un deal, si vous voulez, entre Bismarck et Napoléon III. Si la France reste neutre face à la guerre austro-prussienne, nous aurions la Belgique et le Luxembourg.
Oui. Nous nous rapprochons des frontières naturelles.
Les fameuses frontières naturelles. Mais évidemment, ce que Bismarck fait, il se garde bien de d'écrire cette promesse. En revanche, il saura en faire état du point de vue diplomatique pour faire connaître aux pays d'Europe que l'empereur des Français avait demandé ces compensations. Or, on sait que l'Angleterre est très à cheval sur l'indépendance de la Belgique et sur l'équilibre européen.
C'est toujours la même question. Surtout, pas une grande puissance en face d'Angleterre.
Voilà. Alors donc, à l'issue de cette guerre, de cette guerre austro-prussienne de 1866, cette fameuse bataille de Sadova, la Confédération germanique est dissoute, oui, et elle est remplacée par la Confédération de l'Allemagne du Nord, constituée de 22 États, et puis se met en place en même temps une Ligue des États du Sud de l'Allemagne, qui, à ce moment-là, sert de tampon avec la France.
Exactement.
Et la France ne souhaite pas l'unité globale de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la prééminence militaire française cesse.
Oui.
Et qui dit prééminence militaire, dit aussi prééminence diplomatique. Donc on en est là. Et Sadova, en tout cas, est un coup de tonnerre,
oui,
dans l'Europe de l'époque et en France.
Vous savez qu'il y a un historien qui a dit, vous autres Italiens, vous êtes l'Italie des trois S. Solferino, Sadova, Sedan.
Et c'est vrai.
N'est-ce pas ?
Absolument. Alors, puisqu'on vous parlez de l'Italie, la France a aidé effectivement le Piémont-Sardaigne à faire l'unité de l'Italie, mais comme Napoléon III n'est pas allé jusqu'au bout, et notamment a refusé que Victor Emmanuel s'empare de Rome.
Rome, la question.
Bon. Les Italiens, enfin le roi et le gouvernement italien, en 1870, seront attentistes et refuseront de s'engager. Le Victor Emmanuel a promis à Napoléon III une alliance éventuelle militaire, mais ça, encore une fois, il ne l'écrit pas.
Voilà.
Tout ça, c'est verbal.
Alors, quelle est l'étincelle ?
Alors, il faut une étincelle, mais avant qu'il y ait l'étincelle, on n'a pas attendu, si vous voulez, Napoléon III n'attend pas que le désastre arrive comme ça. Il y a d'abord une tentative de faire barrage à ce qui tout d'un coup apparaît en Europe comme étant une menace hégémonique de la Prusse. Alors, la riposte, c'est quoi ? C'est une réforme militaire française. C'est-à-dire que jusque-là, l'armée française, elle est recrutée, non pas par la conscription, mais par le volontariat.
Voilà.
Et en Prusse, la conscription avait été mise en place. Donc Napoléon III pense qu'il faut faire la même chose si on veut aligner un nombre équivalent, quasi équivalent, de soldats. Et il charge son ministre de la guerre, le maréchal Niel, de proposer cette réforme. Et puis en même temps, il envoie à Berlin un espion, un émissaire particulier, le colonel Eugène Stoffel, qui lui adresse des rapports très précis sur l'état d'organisation et des forces prussiennes. Ces rapports, on les a, ils sont imparables. Ils exposent la supériorité prussienne en matière de formation, en matière d'effectifs, c'est très net. Donc en fait, on est informé. Alors ce qui se passe, c'est que la réforme militaire, elle est mise en échec par quoi ? Par un pacifisme ambiant qui s'est développé dans les années 60, notamment lié au fait que l'opposition républicaine s'est développée, oui. Notamment au fait que l'expédition française au Mexique a échoué.
Un échec terrible.
Et donc du coup, on en a assez de voter des crédits militaires, on en a assez de guerres incessantes. Napoléon III avait dit au début de son règne, l'Empire c'est la paix, on ne cesse de lui rappeler que c'est pas vrai, l'Empire c'est la guerre. Bref, donc il y a une coalition parlementaire de centre-gauche et centre-droit pour faire échec à la réforme Niel et donc à refuser la conscription. En revanche, on concède la création d'une garde nationale mobile. Ce serait quoi ? Ce serait les jeunes gens qui seraient astreints à des périodes, on va dire, de réserve. Son problème, c'est qu'on fait de la réserve en général quand on a déjà une instruction militaire. Là, ce serait une réserve sans formation préalable, c'est-à-dire des jeunes qu'on formerait quelques jours dans l'année, par période régulière, qui seraient, comment dire, une force supplétive de 500 000 hommes. Alors sur le papier, ça fait bien. Mais comme ces jeunes gens n'ont jamais été formés, le mode de recrutement et le calendrier de leur formation fait que ça obère déjà, si vous voulez, son efficacité.
Exactement. Alors, quelle étincelle ?
Alors, le colonel Stoffel, qui était en Prusse et qui écrivait ses rapports, dit très précisément ceci à Napoléon III. L'Allemagne n'attend qu'une chose. C'est une agression parce qu'elle est prête. Elle ne déclarera jamais la guerre. Elle attend la faute. Et la faute ne venant pas, Bismarck va la provoquer.
Merci pour ces explications passionnantes, monsieur Vigoureux. Vous avez expliqué véritablement le fond, les raisons profondes de cette guerre. Dans notre prochaine émission, nous allons voir l'étincelle et la guerre proprement dite. Merci pour cette première émission. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute, votre fidélité à RCF et à l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense pour l'histoire militaire du Berry. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour notre seconde émission sur la guerre de 1870-1871.